Oui, bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du vendredi 1er décembre 2017. Et voilà, on passe à Noël déjà. Alors, je suis ici avec ma formidable équipe. Francine Forgette, bonjour.
Bonjour Hélène.
Catherine Brunet, bonjour.
Bon matin.
Et monsieur, comment déjà?
Monsieur Mathieu
Tessier. Bonjour.
Bon matin.
Alors voilà, nous présentations. Francine, vous allez vous m'intriguer avec vos sujets là. Vous m'intriguez vraiment. De quoi vous allez
Alors,
parler?
Alors, juste pour vous intriguer davantage, cette semaine, on a mêlé beaucoup de choses. Qu'est-ce que le talent, dans un premier temps? Les technologies, évidemment. Comment les créateurs aiment ces technologies? Le bracelet pour donner au suivant, qui est un peu contesté. Et peut-être aurons-nous le temps aussi de parler de récupération.
Et voilà, vous allez nous entraîner dans une foule de sujets intéressants. Merci, Francine. Catherine,
moi, je débute la lecture d'une autre de mes revues chouchou qui s'appelle Caribou, qui est pour la culture culinaire québécoise raisonnée. Et c'est un numéro sur l'art et le design en cuisine. Donc, c'est très, très intéressant.
Et si vous pouviez, moi, je peux admirer la couverture, la page couverture, c'est absolument magnifique. Comme design, là, ça ne peut pas être plus beau.
Tout à fait.
Merci. De mon côté, eh bien, moi, je vais vous parler de la dernière tournée du Dr. Étier. Je vais vous dire d'où il vient et pourquoi c'est sa dernière tournée. Je vais aussi essayer de vous apprendre comment être heureux. Et j'ai aussi un très beau texte de Noémie Mercier sur les femmes bioniques. Alors, on vous revient dans quelques instants. Catherine, je vous laisse le soin de nous amener dans votre belle revue de design.
Alors, je vais commencer par la section portraits. À chaque magazine Caribou, il y a toujours des portraits. C'est un magazine qui sort deux fois par année, je crois. Je vais vérifier, puis je vous redirai si c'est trimestriel ou combien de fois par année la revue sort. Donc, le début commence par portrait. Cette fois-ci, c'est hors de la table avec les objets qu'ils fabriquent. Catherine Auriol, Tony Godette et Bobby Alec Touctou embellissent les tables et donnent des airs de cérémonie au repas. Leurs objets et accessoires de cuisine magnifient les aliments, deviennent les écrins d'un spectacle, sont des passeurs de tradition. La céramiste, le designer d'objets et le coutelier se racontent. De l'importance du contenant, c'est un texte de Geneviève Vézina, Mon plaisir. Cheveux courts, platine en bataille, visage rougi par la course, Catherine Auriol arrive en trombe dans son atelier boutique de céramique Gaïa. Désolée, j'avais oublié notre entretien, avoue la propriétaire de cette entreprise de la rue Laurier-Est à Montréal. En ce début d'été, la vie de Catherine est une course folle. L'artisane cumule les contrats pour plusieurs restaurants et sa mémoire lui joue des tours. Pourtant, son carnet de commandes n'a pas toujours été aussi rempli, ni son horaire aussi chargé. Il y a un peu plus de 20 ans, Catherine n'aurait jamais pensé que ce métier allait prendre autant de place dans sa vie. Mais comme elle le dit si bien, c'est la céramique qui m'a choisie. Pendant ma maîtrise en anthropologie, je me suis acheté de l'argile pour me dérider, raconte-t-elle dans son vocabulaire coloré. J'ai aimé ça et après mes études, au lieu d'aller faire un tour du monde, je me suis inscrite au Centre de céramique Bon Secours à Montréal. De retour d'un stage en France, Catherine comprend qu'il faut avoir un espace de vente dans son atelier pour espérer gagner sa vie comme céramiste et pour n'être à la merci ni des boutiques qui font de la consigne à 50%, ni des salons d'artisans où les gens ne veulent que des paquets cadeaux à 20$. En 1999, avec d'autres céramistes, qui ne sont plus à l'aventure aujourd'hui, Catherine met la main sur le local qui portera le nom de Gaïa et se donne pour mission de faire connaître l'art de la céramique. Le charmant établissement du plateau Mont-Royal accueille un espace boutique à l'avant où les créations de Catherine côtoient celles d'une douzaine d'autres céramistes. À l'arrière, l'atelier regroupe plusieurs tours de potiers pour le tournage des pièces, de grandes étagères pour les faire sécher et de grosses chaudières contenant les diverses glaçures pour les colorer. Au sous-sol, 32 fours à céramique. Les pièces y passeront deux fois avant d'être complétées. Deux employés sont derrière les tours, occupés à façonner l'argile pour aider Catherine à boucler ses commandes. Si on y ajoute Marc, le bras droit de la céramique, qui s'occupe des suivis de production, ils sont maintenant quatre qui travaillent à temps plein pour Gaïa. C'est qu'à partir du jour où le chef du restaurant Le Mousseau, Antonin Mousseau-Rivard, a passé la porte de la boutique en juin 2015, la carrière de Catherine a basculé. Il est entré ici, on s'est regardé tous les deux avec des yeux qui disaient « T'es qui, toi? » Lui, le jeune trentenaire avec des tatous, moi, la cinquantenaire échevelée. Il m'a dit « J'ouvre un resto et j'aimerais travailler avec toi », se souvient la pétillante Catherine. On a eu 6 mois pour élaborer des concepts. Ça m'a vraiment donné un coup de pied au cul pour travailler les glaçures mates. Il n'y avait personne qui faisait ça à Montréal. Ça a fait boule de neige car Antonin est très actif sur les réseaux sociaux et depuis, les commandes pour des restos n'arrêtent pas d'entrer. La céramiste confie même que sa rencontre avec le jeune chef, l'a réconciliée avec son art et a donné un second souffle à sa carrière. « J'avais déjà fait une commande pour un resto avant, mais ça ne s'était pas bien passé. Mon client essayait de payer des assiettes 5 $, soit moins cher que ce que tu trouves chez Stoke », s'indigne-t-elle. Mais maintenant, je parle vraiment d'artiste à artiste aux chefs avec qui je travaille. Je passe du temps avec eux. Je m'imprègne de leur environnement. Ils me soumettent des idées, souvent une vague forme mimée avec des mains ou dessinée sur un bout de papier cheapo, et je tente de la traduire dans mon médium à moi. Je fais des prototypes, puis on réajuste le tir. J'adore la partie recherche et développement de mon travail. Il n'y a pas que les chefs qui apprécient le talent de Catherine, grâce auxquels leurs plats sont magnifiés. Il y a aussi les clients pour qui les créations de l'artiste font partie de l'expérience vécue au restaurant. Avec Claude Le Baillon, du restaurant Chasse-Galerie, on a travaillé sur un bol qui ressemble à une boule de quilles écrasée, décrit Catherine. Il m'a dit que les clients passent leur temps à caresser le bol pendant qu'ils mangent. Ils le tapotent, ils le regardent, ils le soulèvent. Les gens ne faisaient pas ça avant. Pour Catherine, cela va de pair avec le changement qu'elle a remarqué dans la façon de commencer de consommer des Québécois. L'étape après manger local, c'est manger dans l'assiette d'ici, affirme-t-elle. Je ne me fais plus dire « je peux acheter le même genre de bol au Dolorama ». Les gens respectent plus qu'avant le travail de l'artisan. L'engouement pour le côté artisanal de la poterie, Catherine le constate également dans les cours qu'elle donne et qui affiche rapidement complet. Les gens veulent retrouver le contact avec la matière, explique-t-elle. La céramique, c'est un soul craft. Ça demande de la patience et de la persévérance. La céramiste a terminé son café. Elle se retrousse les manches, prête à se mettre à l'ouvrage. J'ai aussi des commandes à terminer pour des particuliers. 3 services de vaisselle complets, certains de 12 couverts. Ça n'arrivait pas avant ça non plus, ajoute-t-elle en souriant. Ça doit vouloir dire que j'ai gagné mon pari. Presque 20 ans plus tard, j'ai réussi à faire reconnaître l'art de la céramique. Alors, l'article que je viens de vous lire sur Catherine Auriol vient de la revue Caribou du dernier numéro automne 2017.
Et merci beaucoup, Catherine. Fort intéressant. Francine, vous allez nous amener dans les bracelets, dans l'intelligence artificielle. Où est-ce que vous amenez?
Non, pas tout de suite. On va parler du talent.
Ah, d'accord.
Alors, on vient d'avoir un cas très talentueux. Alors, qu'est-ce que le talent? Neymar, le footballeur brésilien là, qui vaut 200 millions d'euros et dont on a parlé cet été, a-t-il plus de talent que Steve Jobs? La question est posée par Saïd Maran et la réponse donnée par Pierre-Michel Menger, qui est professeur au Collège de France. C'est une entrevue dans Le Point du 2 novembre. Je vous en livre de larges extraits. Qu'est-ce que le talent? Est-il inné? Dépend-il du QI? Sommes-nous égaux face au talent, cette aptitude qui peut conditionner une vie? Titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur au Collège de France, Pierre-Michel Menger a longuement étudié le sujet de l'Évangile et de la Grèce antique jusqu'au 18e siècle, jusqu'à notre époque, où cette notion, à l'heure du culte de la performance et de la nécessité de se vendre, est encore mal connue. Quelle est votre définition du talent? Vous parlez d'une grandeur mystérieuse. Le vocabulaire du talent circule partout. Le transfert de Neymar pour 220 millions d'euros est considéré comme une bonne affaire, vu son talent. Le management des talents fait fureur dans les entreprises et les sociétés de conseil. À l'évidence, on ne semble pas parler de la même chose, au-delà d'une définition minimale et vague. Cette définition vague, c'est la capacité à réaliser d'excellentes choses dans son domaine ou l'aptitude qui procure un avantage, pourvu qu'on la développe. Mais de quoi est faite cette capacité? Si on savait définir exactement les qualités nécessaires à la réussite, on détiendrait la clé de l'explication des succès individuels et on pourrait inventer l'algorithme parfait pour détecter ces qualités, les développer et orienter très tôt les individus à l'école, dans le sport, les affaires, la politique, les arts, les sciences. En fait, comme je l'explique dans mon cours au collège, le talent est une combinaison de qualités qu'on peut essayer de lister, mais dont on ne connaît pas le bon dosage, le bon équilibre. Heureusement d'ailleurs, sinon nous serions soumis à d'impitoyables machines à trier les individus. Mieux, ces différentes qualités peuvent très bien être présentes assez normalement chez beaucoup de gens, avec des variations peu considérables. Quelqu'un a plus de ceci, imagination, aptitude à résoudre des problèmes, et moins de cela, persévérance, ouverture à autrui, ou l'inverse. Mais c'est la combinaison qui compte. Un sportif dont les moyens physiques sont phénoménaux, mais dont les nerfs lâchent, n'ira pas loin. Les nouveaux penseurs de la Silicon Valley sont-ils, par leur découverte bouleversante, les grands talents de ce début du 21e siècle? La Silicon Valley est le cœur d'un incroyable marché aux talents et au débauchage de talents. Un talent traffic depuis une décennie. Les GAFA, c'est-à-dire les géants du web que sont Google, Apple, Facebook et Amazon, achètent les meilleurs ingénieurs et chercheurs à prix d'or. Les startups bousculent les codes traditionnels de la réussite avec l'économie des plateformes. Les salaires explosent. Mais plus encore, les inégalités, puisque les salaires pour un même travail et dans la même entreprise peuvent varier de 1 à 10 ou plus, selon la performance des individus. Voilà une économie du talent sonnante et trébuchante. Et il y a un afflux très impressionnant de migrants très qualifiés. La principale monnaie en circulation là-bas, c'est donc bien le talent. Autrement dit, le différentiel de performance. Et tout ça sous les auspices des innovations et des révolutions numériques et de leur prolongement métaphysique plus ou moins saugrenu. L'obsession de nombreux parents est de faire éclore le talent qui sommeille en l'enfant, quitte à le mettre sous pression. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un sujet majeur. On sait à quel point les inégalités de revenus et de richesses se reproduisent grâce aux investissements parentaux sur la réussite des enfants. C'est beaucoup plus profond qu'une simple question de moyens financiers. Des travaux américains récents montrent que les familles des classes supérieures sont plus stables, divorcent moins, que le niveau d'éducation des femmes, qui a dépassé celui des hommes, pousse à rééquilibrer les relations d'investissement sur les enfants dans le couple et à les manager par toute une organisation qui mobilise des services, des choix d'environnement scolaire, des activités extrascolaires, du temps donné aux enfants, un souci d'éducation moins permissive
et une gestion constante des réseaux de relations. On voit les parents établir des tableaux de service pour organiser les journées de leurs enfants et développer plus efficacement leurs capacités. Tous ces facteurs agissent ensemble pour augmenter les inégalités des chances. Les Pig Moms de Corée du Sud, ces mères qui forment des réseaux de managers pour la réussite de leurs enfants, sont la forme extrême et caricaturale de cette évolution. Qui aujourd'hui vous paraît talentueux? Je vous réponds par un exercice de pensée. Imaginons que l'Académie française compte non 40 membres, mais bien 41. Le 41e aurait certainement des qualités identiques à celles des 40 titulaires. Or, il n'y a pas 41 fauteuils. Imaginons que pour les 390 romans de langue française sortis cet automne, on désigne non pas un, mais deux ou trois lauréats pour chacun des prix littéraires les plus prestigieux. Serait-il moins talentueux que celui qui raflera seul la mise? Le talent est aussi une institution sociale, celle qui invente des hiérarchies au sommet desquelles il faut bien placer quelqu'un. Alors voilà les propos recueillis auprès du professeur Menger, et cette entrevue est publiée dans Le Point du 2 novembre.
Sans être à genoux, je faisais ma prière. Je demandais au ciel et à celui qui l'habite un peu de talent pour changer ma cuillère. Mais vite, vite, je périclite. Je voulais des éléments de réponse. Pas un de ces itinéraires qu'on divise. Une voix qui me dirait, allez vas-y mousse, fonce. Comme si le talent avait une notice. Je voulais écrire de la prose et des vers. Mais dans la cité, pour celui qui écrit, ça craint. Faut que je change d'univers, sous peine de finir un guitariste chilien. Sous peine de finir un guitariste chilien. Amérique, on ne retrouve ni ça et là. Appelez-le, appelez-le comme vous voulez. Amérique, on ne retrouve ni ça et là. Attaoula, patois, Kabila, en anglais. Amérique, on ne retrouve ni ça et là. Appelez-le, appelez-le comme vous voulez. Amérique, on ne retrouve ni ça et là. Attaoula, patois, Kabila, en anglais.
Est-ce qu'il faut manger du lion,
oui,
ou du porc pour en avoir un échantillon? De la vache folle, mais ça j'en doute. Vu les cadavres qui jonchent le long de ma route, y a-t-il moyen d'en pécho? Quelques grammes pour être chaud. Est-ce qu'il faut que j'entre dans une église? Que le curé dise, Hakim dit toutes tes bêtises. Je suis prêt pour ça, à prendre ma bécane, balayer l'escalier du festival de Cannes. Sur Festival de Cannes.
Amérique, on ne retrouve ni ça et là.
Appelez-le, appelez-le comme vous voulez.
Amérique, on ne retrouve ni ça et là.
Attaoula, patois, Kabila, en anglais.
Amérique, on ne retrouve ni ça et là.
Appelez-le, appelez-le comme vous voulez.
Amérique, on ne retrouve ni ça et là.
Attaoula, patois, Kabila, en anglais. Attaoula, en anglais.
Le ciment, j'y suis depuis la poussette. Et plutôt qu'à la mosquée ou à l'abbaye, moi, je veux comme interprétat, comme l'autre, ou là-haut dans le plat pays. Allez, talent, sois pas relou, guide mes pas. Et moi, pour un plan comme la bohème, pour un seul, ne me quitte pas. En Paris, je quitte l'OM. Allez, talent, tourne ta manivelle. Un riff, un refrain, même un début d'air. Allez, coiffe-t'en, mais rien qu'une ritournelle. Sinon, j'appelle l'émir Abdelkader. En vérité, on ne le trouve ni ça et là. Ni en banlieue, ni dans le Guatemala. En vérité, on ne le trouve ni ça et là. Ni en banlieue, ni dans le Guatemala.
Amérique, on ne le trouve ni ça et là.
moule en anglais.
C'était Zebda et leur chanson Le Talent.
Nous revoilà en ondes. Hélène Bédard au micro. Je vais poursuivre avec et je vais faire du millage avec les textes précédents.
D'ailleurs, je vous avais dit que j'allais vous revenir sur combien de fois Caribou sort par année. C'est deux fois par année, une fois à l'automne et une fois au printemps. J'ai vérifié.
Voilà. Parfaitement. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Alors, après Le Talent, et moi, je vais vous parler des femmes bioniques. C'est un texte de Noémie Mercier paru dans l'actualité, le volet Internet. Certaines femmes possèdent une résistance à l'effort proprement bionique dans les épreuves de longue durée. On la surnomme Magatron. L'Américaine Maggie Gertl a parcouru 160 km, en fait, elle les a courus 160 km, presque sans interruption, sur un sentier de terre battue au Texas. Au bout de 13 heures, 47 minutes et 2 secondes, elle a franchi le fil d'arrivée, la première, devant des dizaines d'autres athlètes d'élite, hommes et femmes. Son plus proche concurrent a terminé 11 minutes derrière elle. Donc, cette femme n'est pas la première à faire moindre la poussière à des hommes dans une compétition d'endurance extrême. Lors de ce marathon, 4 autres ultramarathons ont été remportés par des femmes, y compris une épreuve impitoyable consistant à couvrir la plus grande distance possible en 24 heures. La gagnante, Courtney Dowalter, a parcouru 147 km dans le temps alloué, près de 3 km de plus que son plus proche rival. On a toujours tenu pour acquis que les hommes, avec leur masse musculaire supérieure et leur cœur plus volumineux, jouissaient d'un avantage insurmontable sur l'autre sexe dans toute épreuve physique. Mais, dans les disciplines marginales qui repoussent les limites de l'endurance au-delà de ce qui semble être humainement possible, cet avantage n'est plus si net. D'autres qualités que la puissance brute prennent donc de l'importance. Et on découvre que certaines femmes possèdent une résistance à l'effort proprement bionique. Les victoires féminines dans les ultramarathons mixtes demeurent exceptionnelles, mais il n'est pas rare de trouver des femmes parmi les 10 meilleures. En septembre, l'Américaine Sarah Case a terminé sixième au classement général de l'Ultra Trail Arikana, un parcours de 125 km, tout en montée et en descente dans Charlevoix, parmi 160 coureurs des deux sexes. Pour prendre la mesure de l'exploit, songez que dans un marathon de 42 km classique, comme il se fait à Montréal, la femme la plus rapide n'atteint jamais la 20e place. Et ce n'est pas tout. En natation de longue distance, les femmes surpassent les hommes dans certaines des épreuves les plus exténuantes de la planète. Elles sont généralement plus rapides pour faire le tour de l'île de Manhattan à la nage, un trajet de 46 km, et elles réussissent de meilleurs temps à la traversée de Catalina en Californie, un périple de 32 km de nuit dans des eaux froides et mouvementées du Pacifique. Des scientifiques commencent à avoir une idée de ce qui peut expliquer l'extraordinaire résilience des femmes. D'abord, elles sont plus résistantes à la fatigue musculaire que les hommes. On l'a vérifié lors de tests en laboratoire, comme ceux menés par Sandra Hunter, professeure de sciences à l'Université de Marquette au Wisconsin. Dans une de ses études publiées en 2004, des volontaires ont contracté les muscles de leurs bras à répétition 6 secondes à la fois jusqu'à épuisement. Les sujets étaient de force et de conditions physiques semblables et ont fourni un effort équivalent pendant l'exercice. Pourtant, les femmes ont tenu presque 3 fois plus longtemps que les hommes, 23 minutes au lieu de 8 minutes avant de s'arrêter. D'autres travaux ont permis de conclure que les femmes conservent plus de vigueur dans leurs muscles après avoir pédalé ou couru dans une longue période. Quand des chercheurs français ont mesuré avec précision la fatigue musculaire des athlètes qui venaient de terminer une course de 110 km, ils ont constaté que les hommes avaient perdu plus de force dans leurs cuisses, donc les hommes avaient perdu 38 % de leur capacité maximale, tandis que les femmes, elles, en avaient perdu que 29. La ténacité des femmes tient peut-être aux particularités de leur métabolisme. On sait que pendant un effort physique, elles puisent davantage d'énergie dans les matières grasses et moins dans les glucides comparativement aux hommes. Les glucides, les sucres, sont parfaits pour fournir un surplus d'énergie immédiat, mais on en vient vite à bout de cette ressource car c'est un carburant qui brûle rapidement et qui n'est pas stocké en grande quantité dans le corps. Par contre, les réserves de gras sont plus abondantes et libèrent leur énergie plus lentement. Elles sont idéales pour soutenir un acharnement prolongé. Les femmes possèdent un autre atout, celui-là plutôt situé entre les deux oreilles. Elles seraient plus douées pour gérer leur cadence lors d'une course. Tandis que les hommes sont portés à partir comme une flèche et à casser ensuite, les femmes parviennent davantage à maintenir une allure constante, une faculté cruciale pour les épreuves de longue durée. Par exemple, dans une étude qu'elle a co-signée en 2015 dans la revue Medicine and Science in Sport and Exercise, Sandra Hunter a analysé plus de 90 000 chronos. Elle a calculé qu'en moyenne, les hommes ralentissent de 16 % dans la moitié de la course et les femmes de 12 %. On n'a pas encore tout vu ce que les athlètes féminines peuvent accomplir à mesure que la pratique sportive gagne du terrain chez les femmes. On voit fondre l'écart entre les sexes dans une panoplie de disciplines et on se rend bien compte qu'on avait grossièrement sous-estimé leur capacité simplement parce qu'elles n'avaient pas eu l'occasion, autant que les hommes, de les développer. Je suis essoufflée avec tous ces kilomètres. Je vous rappelle le texte, c'est « Les femmes bioniques », un texte de Mme Noémie Mercier, paru dans la revue Actualité, le volet Internet. Nous vous quittons en ce moment pour une pause. Et vous, ne nous quittez pas, nous vous revenons. Merci.
Café, tes cheveux café, ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer, toute bracelet, joli bracelet, à tes pieds ils se balancent, couleur café, que j'aime ta couleur café. Ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? Mon main de café, elle se terminée. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, couleur café,
j'aime ta couleur café. La couleur café. Que j'aime ta couleur café.
Alors, c'était... Excusez-moi, j'avais oublié qu'il y avait un petit bout à la fin. C'était Lulu Gainsbourg, Ayo, Mathieu Chédid et Sly Johnson qui nous chantaient la chanson « Couleur café » tirée de l'album très français « From Gainsbourg to Lulu
». Et je crois qu'on va faire une belle suite là-dessus. Catherine, entre autres, va nous amener avec le café dans sa revue Caribou. Je te laisse aller.
Absolument. On continue ces portraits du art et design, ce numéro de Caribou. Cette fois-ci, c'est « Objet de convoitise », un texte de Jessica Aymon-Ferrat. « L'habit ne fait pas le moine », dit l'adage. Et pourtant, le café a toujours l'air meilleur quand on le sert dans une jolie tasse à expresso. Tony Godette, fondateur de la Maison Milan, explique sans mal ce phénomène. Une tasse dont l'intérieur est en cuivre rehausse la couleur du créma et rend le café plus beau. À son avis, les objets présents dans notre cuisine peuvent influencer notre manière d'apprécier la nourriture et même façonner nos souvenirs. Un tablier peut nous rappeler les fois où on l'a utilisé pour manger des huîtres avec notre famille. À partir de ce moment-là, il cesse d'être un simple accessoire. Il y a une histoire. Dans le somptueux Crew Collective and Café, à Montréal, où il loue un espace de bureau avec sa chemise noire et sa chevelure poivre et sel, celui qui a fondé la Maison Milan il y a 6 ans dégage certainement l'élégance qu'il évoque pour décrire les instruments de cuisine haut de gamme de son entreprise. Son léger accent de la côte nord rappelle que c'est à cette île qu'est né son amour pour la bonne chère. J'ai grandi dans un quartier peuplé d'une 50aine de communautés culturelles. Ces gens de toutes les origines étaient venus travailler dans les mines au cours des années 1940, raconte-t-il. Nos voisins étaient italiens, portugais, vietnamiens, haïtiens. J'ai baigné dans ma jeunesse dans ces cultures pour lesquelles bien manger était primordial. On faisait venir des biscuits de l'épicerie italienne, montréalaise, Milano. Tout le monde avait un jardin et les parents étaient plus fiers de leurs enfants pour leurs exploits culinaires que sportifs. Après avoir commencé sa carrière en tant que designer industriel, Tony Godette a uni, pour se faire plaisir, ses passions pour le graphisme et la gastronomie en dessinant ses premiers accessoires de cuisine, 2 planches à découper et 1 rouleau à pâte qu'il a présenté à un détaillant de produits haut de gamme. Il m'a rappelé 2 semaines plus tard. Il voulait mes créations. Je n'avais alors que des échantillons, pas de logo, pas de marque. Il m'a demandé le nom de ma compagnie, et j'ai spontanément répondu le prénom de ma fille, Milan, précise le designer en posant son regard sur la fillette qui dessine sagement à ses côtés. Joli hasard que ce nom soit aussi celui de la capitale italienne de la mode. En effet, Tony Godette n'a pas tardé à entreprendre des démarches pour exporter ses produits dans ce pays qui l'a influencé par le raffinement de son design. À ses premières créations se sont ajoutées notamment une tasse à expresso en cerisier, un sous-plat ainsi qu'un support à couteau aimanté en noyer. Le créateur a un penchant pour le bois, matériau élégant et facilement accessible au Québec. Depuis 2 ans, cet homme qui flaire aisément les tendances et trouve l'inspiration au fil de ses voyages édite aussi des produits conçus par d'autres designers industriels. Cela permet à la Maison Milan de donner de la visibilité aux talents de ceux-ci tout en profitant de leur créativité. Quand je confie un projet à quelqu'un, je sais déjà quel objet je veux. Je connais son matériau, son prix, je sais qui en sera le fabricant. Le designer s'occupe de le dessiner en s'assurant qu'il s'inscrive dans la lignée des autres produits de la Maison Milan, note-t-il. Ajoute fièrement qu'il collabore avec les meilleurs. La Maison Milan compte désormais des points de vente en Italie, en Scandinavie, en France, aux États-Unis et bien sûr au Canada, en plus d'avoir une boutique en ligne qui livre dans ces trois derniers pays. C'était important pour moi de passer rapidement à l'exportation pour rentabiliser mon entreprise et diminuer les coûts de production. En Europe, les gens sont prêts à payer plus cher pour un objet de qualité qui dure longtemps, alors qu'ici, ce n'est pas complètement implanté dans la culture. On a encore tendance à se tourner vers ce qui coûte moins cher, reconnaît l'énergétique homme d'affaires qui, bien qu'il n'assure plus chacune des étapes de création des produits de son atelier montréalais, tient mordicus à ce qu'ils soient manufacturés dans des fabricants québécois, même si cela représente un défi financier. Faire voyager sa marque lui a aussi permis de constater que chaque pays a ses produits préférés parmi ceux qu'il propose. Ce qui est fait en bois marche à merveille en Norvège, au Danemark et en Suède, remarque-t-il. Les tabliers élégants ont la cote en France, alors qu'en Amérique du Nord, on préfère ceux du look plus rustique avec moins de poches. Et au Québec, on aime ce qui est pratique et facile à utiliser. Les Québécois ne se prennent pas trop au sérieux. Souvent, ils dénaturent l'objet, lui donnent plusieurs fonctions. Son très populaire rouleau à pâte en bois de noyer et d'érable en est un bon exemple. À la fête d'un ami, un invité m'a expliqué à quel point le rouleau avait du succès dans sa famille, surtout auprès de son fils de 8 ans. J'étais impressionnée. Puis il m'a dit, à son anniversaire, on avait installé une piñata et on a utilisé son rouleau pour la frapper. Il est vraiment bien équilibré, raconte le designer en riant de bon cœur. Tony Godette le répète plusieurs fois. Il espère que le succès de la maison Milan inspirera d'autres gens. Très peu de designers industriels arrivent à vivre de leur métier, déplore-t-il. Mais je crois que ça peut changer. Je voudrais qu'on forme un mouvement, qu'il y ait plus de produits locaux offerts sur le marché, que ça crée un engouement et que les consommateurs acquièrent le réflexe d'acheter des objets de qualité faits ici. Il rêve aussi de voir naître une esthétique propre au Québec. J'aimerais qu'on devienne des leaders en la matière. On l'est dans le domaine du jeu vidéo. Pourquoi pas dans celui des objets de cuisine?
Et pourquoi pas? Eh bien, maintenant, nous allons poursuivre avec Francine. Francine va nous parler de puces.
Puces, bracelets, etc. Alors, merci. On parle évidemment de technologie et intelligence artificielle. Le Devoir a fait état de plusieurs projets récemment. Je vous en parle parce qu'un de ces projets a suscité beaucoup de réactions. L'entreprise Connect & Go, qui a décidé de mettre sa technologie de paiement instantané au service des sans-abri, une puce qui permet de donner au suivant. Alors, dans un texte de Carl Rettino-Paraselli, on a expliqué un petit peu le projet. Je vous le résume et ensuite je vous fais part de la réaction qui le suscite. En compagnie du cofondateur de Chronométrique, Rémi Richard, Dominique Gagnon de Connect & Go développe actuellement un bracelet qui permettrait aux itinérants de recevoir les dons des passants qui ont les poches vides et d'acheter certains produits dans des magasins participants. Ce n'est pas un projet qui a une visée commerciale, c'est un projet qui a une visée sociale. Comme plusieurs entreprises à Montréal, on a du succès en affaires et on avait envie de redonner, explique l'entrepreneur. Dominique a eu l'idée de créer ce bracelet connecté pour sans-abri en réalisant qu'il a rarement de la monnaie pour donner un coup de pouce aux itinérants qu'il croise, mais aussi en écoutant les membres de son entourage. Il y a plusieurs de mes amis qui me disaient qu'ils ne donnaient jamais aux itinérants parce qu'ils pensaient qu'ils allaient utiliser l'argent pour boire et se droguer. Le concept imaginé par Connect & Go tient compte de ces deux enjeux. Les passants pourront donner de l'argent virtuel en approchant leur téléphone du bracelet d'un itinérant et les sans-abri pourront échanger les jetons accumulés seulement contre certains types de produits. L'alcool devrait, par exemple, être exclu. Alors, ce bracelet a suscité une réaction qui est apparue dans la Libre Opinion, toujours dans Le Devoir, du 22 novembre 2017. Et le titre est assez évocateur, « Un bracelet électronique pour itinérants? Non, merci ». Alors, c'est une lettre qui a été signée par plusieurs personnes, dont Anne-Sophie Thomeray-Carrière, qui est médecin de famille. Cette technologie, alors du bracelet, pour donner au suivant, nous est présentée comme une solution visionnaire dans la lutte contre l'itinérance. On nous dit qu'il s'agit d'un projet à visée sociale, né d'une envie de redonner à la société.
En regardant de plus près, on comprend qu'il s'agit plutôt d'une solution au problème du jeune entrepreneur et de ses amis, qui disent n'avoir que rarement de la monnaie à donner aux gens en situation d'itinérance croisés dans la rue. On propose donc de pallier la culpabilité de ne rien donner en facilitant la charité grâce à un outil électronique. En prime, le bracelet emmagasinera le nom et l'histoire de l'individu. Bref, on tente ici, maladroitement, d'humaniser la personne à qui on offre la charité. Tout en saluant la volonté de l'entrepreneur de s'engager pour cette cause, je ne peux malheureusement qu'entrevoir là un risque accru de contrôle et de profilage de populations déjà très vulnérables. Réfléchissons un instant. Connaissez-vous quelqu'un qui accepterait de porter ce type de bracelet, considérant qu'il oblige aussi à n'utiliser les dons reçus que pour acheter des produits que d'autres personnes ont jugé bons? N'est-ce pas humilier par deux fois ce qu'on prétend aider? Absolument rien dans cette innovation ne tient compte des besoins spécifiques des personnes en situation d'itinérance. Rien ici n'a été réfléchi selon leur perspective. Ainsi, on fait l'impasse sur des éléments essentiels qu'il faut comprendre pour aider réellement. Ces personnes, déjà marginalisées, sont aussi criminalisées à outrance. Elles sont souvent aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de stress chronique. Elles ont vécu un nombre inouï de traumatismes, ce qui les rend avec raison méfiantes. Comment les convaincre de porter un bracelet à puce qui, en plus, impose une restriction sur les produits qui pourraient être achetés avec l'argent virtuel? En soi, vouloir contrôler l'usage de l'argent reçu pose problème. Cette approche est paternaliste et infantilisante. On se donne encore le privilège de choisir ce que les gens en situation d'itinérance devraient faire ou choisir pour eux-mêmes. On sous-entend ici que l'itinérance est banalement la conclusion d'une série de mauvais choix individuels. Ensuite, il est dangereux de tenter d'agir ainsi par la bande pour régler des problèmes de toxicomanie en ciblant les modalités de la charité faites aux personnes en situation d'itinérance. La toxicomanie est une maladie complexe, parfois concomitante à l'itinérance, mais les deux problèmes ne sont pas toujours liés. Toutefois, lorsque c'est le cas, le sevrage d'alcool, par exemple, doit être fait sous supervision médicale. Autrement, l'individu dépendant peut subir des symptômes graves, pouvant aller jusqu'à des convulsions ou la mort. En d'autres mots, il peut être mortel pour ces gens d'être à court d'alcool. Cela nous rappelle que si nous refusons d'accepter que les personnes en situation d'itinérance administrent elles-mêmes l'argent, il vaut mieux s'abstenir de donner plutôt que de tenter de contrôler ce qui nous semble être juste, bon et prioritaire pour elles. Si vous voulez parler d'innovation inspirante dans la lutte contre l'itinérance, intéressez-vous aux projets de soins de proximité, aux psychiatres qui vont dans les refuges ou encore aux travailleurs de rue qui vont à la rencontre de l'autre, un squat et une tente de fortune à la fois. Lisez sur les projets de Père aidant, sur l'équipe de Médecins du Monde et à son projet de clinique mobile pour les patients autochtones, sur les organismes communautaires qui font la défense des droits des gens en situation d'itinérance et qui font de l'éducation auprès du grand public, ou encore sur les refuges qui sortent chaque année des gens de la rue avec un budget dérisoire et une imagination débordante. Nous devrions aussi reconnaître l'impact sur l'itinérance des coupes en santé publique, dans le financement aux organismes communautaires et dans l'aide de dernier recours, ainsi que les dernières réformes qui ont mis à mal notre système public de santé. Même si les technologies ouvrent des portes intéressantes vers l'avenir, ces innovations doivent se faire avec l'intention sincère de préserver la dignité humaine et l'autonomie, et en collaboration avec les principaux intéressés. Collectivement au Québec en 2017, il faut dire non à cette idée de bracelet. Alors voilà une réaction signée par plusieurs intervenants de milieux qui sont proches des itinérants à ce projet de bracelet pour pouvoir donner au suivant. C'est dans le Devoir. 18 et 20 quelques novembre, 23 novembre. Thank you.
Et nous voilà de retour. La discussion était très intense ici suite à l'article lu par Mme Forget. Fort intéressant d'ailleurs. Moi, je vais vous poursuivre avec la dernière tournée du Dr Étier. On va faire un petit tour à l'île aux Coudres. L'île aux Coudres a perdu son médecin cette semaine, son seul médecin. Dr Marcel Étier, l'un des derniers médecins de campagne du Québec, part à la retraite. Il n'est pas remplacé pour l'instant aux grandes dames des Marsouins, les habitants de l'île. La presse a donc accompagné ce docteur dans sa dernière tournée chez ses insulaires, auprès desquels, dans ses mots, il a appris la vraie médecine. Il n'avait jamais pensé devenir un médecin de campagne comme on en voit dans les films d'époque qui se promènent de maison en maison avec sa petite mallette noire, saluant les gens par leur prénom. Il l'est devenu presque par hasard, son épouse étant tombée amoureuse de l'île aux Coudres, qu'elle a visité en 1996. Un an plus tard, ils y déménageaient. Il a été médecin de l'île pendant 20 ans. Il vivait dans une grande maison sur la grève où il promenait ses chiens et ses deux chevaux dans l'odeur du varech. Parfois, des patients venaient cogner à sa porte en pleine nuit. « Ce qui m'a frappé, dit-il au début, c'est le silence total qui y règne. Ensuite, ça a été les gens. » Mercredi, il faisait sa dernière tournée. À 71 ans, l'heure de la retraite a sonné. Il n'a pas de regret, sinon de laisser l'île sans médecin permanent. C'est que le docteur Étier ne sera pas remplacé, à moins de trouver un omnipraticien prêt à s'installer dans l'île, ce à quoi les autorités doutent de parvenir. J'ai eu des stagiaires ici pour leur montrer c'était quoi la réalité, c'était quoi la médecine à domicile. Eux, ils ont l'habitude des centres hospitaliers, mais elle est ici la vraie médecine. Blanche Gagnon, 83 ans, habite une maison avec vue sur le fleuve. Elle apercevait souvent son ancien curé de l'île, M. Falardeau, nager, vêtu de sa combinaison d'homme-grenouille, dans les eaux glacées de novembre. Il est mort subitement sur la grève en 2015. Depuis ce jour, c'est un prêtre de Baie-Saint-Paul qui prend le traversier à chaque semaine pour venir célébrer la messe. Elle dit « L'île n'a plus son curé et j'ai bien peur de ne plus avoir notre médecin non plus. » La dame vit seule depuis la mort de son mari Raymond il y a 8 mois. Le docteur Étier venait la voir toutes les 2 semaines. Avec son départ, elle ne sait pas ce qui l'attend. Récemment, un membre de sa famille a parlé de la placer, raconte-t-elle au médecin. Celui-ci a bondi en entendant ces mots. Il a dit « Placé? As-tu sursauté, Blanche? Comme on placerait un vieux livre dans une bibliothèque. » Le CHSLD déborde. Elle appelle Dr Étier qui suit 900 patients, dont 400 réputés vulnérables. « Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de médecins à domicile. Ça permet de garder les gens dans leur milieu plus longtemps. » Éloi Perron, 95 ans, habite seul dans une grande maison depuis la mort de sa femme. Je me suis battu beaucoup dans ma vie, mais aujourd'hui, le monde n'avance plus, il recule. Ce mercredi, Éloi Perron était émotif. Le docteur Étier était pour lui un membre de sa famille. Il pleure et il chuchote. « Merci pour tout. Je sais que vous vous êtes battu pour qu'on ait un nouveau médecin. Merci. » La lutte des Marsouins s'est portée jusqu'à l'Assemblée nationale. La fille du doyen de l'île, Marcel Tremblay, est allée y déposer une pétition de 1200 signatures. Le docteur Étier l'avait accompagnée. Pas mal tout le monde avait signé la pétition. Je sais que les médecins ne poussent pas dans les arbres, mais les autorités auraient pu faire de vrais efforts pour en trouver un. Imaginez avoir un rendez-vous à 9 h à Baie-Saint-Paul. Il faut être sur le traversier à 7 h et il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. On demande au docteur Barrette, qui est le ministre de la Santé, de nous écouter. C'est un dialogue de sourds. On a l'impression que personne ne nous écoute, déplore Mme Tremblay. Trouver un médecin prêt à venir remplacer Dr Étier ne sera pas évident. Les jeunes médecins préfèrent travailler en équipe, affirme Dr Louis Godin de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Ça leur permet de mettre en commun leur expertise et d'acheter de l'équipement qu'ils ne pourraient se permettre autrement. Le médecin de campagne qui travaille seul dans son bureau, c'est clair qu'on va en voir de moins en moins. Les médecins cherchent à se regrouper et c'est une tendance qui, à mon sens, est réversible. La solution pour l'instant par le CIUS de la Capitale-Nationale consiste à assurer une desserte à partir de Baie-Saint-Paul. Des médecins et une infirmière praticienne spécialisée pourraient, par exemple, se rendre dans l'île périodiquement. Mercredi, Marcel Étier est allé porter tous ses dossiers de tous ses patients à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Il passait le flambeau. Il se demande souvent ce qu'il adviendra de ses vieux patients qu'il a suivis depuis 20 ans. Beaucoup vont mourir dans les prochaines années, c'est sûr. Il y a Marie-Louise, 96 ans, qui vit seule dans sa maison et monte encore dans le jubé de l'église pour chanter. Il y a Paul Lajoie, 77 ans, le marathonien de Lille, qu'on voit passer en short même à l'automne avec des espadrilles. Il y a l'ancien capitaine Éloi Perron, Blanche Dufour et tous les autres. L'île aux Coudres est une municipalité en déclin. Sa population a baissé de 11 % au cours des 5 dernières années et 40 % des habitants de l'île ont plus de 65 ans. Seuls 90 habitants avaient en bas de 14 ans. Les habitants de l'île aux Coudres sont officiellement des Coudrillois, mais on les appelle familièrement Marsouins. Ils doivent ce nom à leur traditionnelle pêche au marsouin, Beluga, qui s'est faite commercialement jusqu'en 1924. Les médecins de l'île aux Coudres, il y en a eu trois. Gérard Matt, durant 35 ans, Georges-Henri Harvey, 22 ans, et le dernier, M. Étier, 20 ans. La presse à l'île aux Coudres, une pratique non souhaitable selon M. Barrette. C'est en entrevue de la presse. En entrevue, M. le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, rappelle qu'il ne peut forcer un médecin à s'installer à l'île aux Coudres. Il faudrait un volontaire, ce qu'il juge improbable. De penser qu'un jour un jeune médecin s'installe à l'île aux Coudres avec la petite population qui est là, ça n'arrivera pas, dit-il. Ce type de pratique est plus qu'en voie de disparition. Il est presque disparu, dit-il. Il pense que le maintien à domicile doit se faire en équipe, notamment grâce au travail des infirmières. Il précise, vous pouvez avoir une population de 20 000 personnes avec un seul médecin d'assigné, mais qui va pouvoir s'occuper des personnes âgées parce qu'il a des équipes. Ce texte provient de la revue La Presse et qui accompagne tristement le docteur Étier. Ça a été écrit par M. Gabriel Bellin. La semaine dernière, je m'excuse, j'ai oublié la date. J'ai trouvé un texte, en fait, c'est d'un livre, c'est « Grand-mère disait ». C'est plein d'expressions, donc voici la définition que nous y avons retrouvée. Fiasco. Le mot « fiasco » vient de l'italien et signifie « bouteille ». Pour comprendre comment il a fini par avoir sa situation actuelle, il faut remonter au 17e siècle à Florence sur une scène de théâtre. Un comédien y jouait alors Arlequin et avait l'habitude d'y faire un numéro comique, une bouteille à la main. D'ordinaire, le numéro faisait beaucoup rire. Seulement un soir, ça n'a pas levé. Personne ne rit. Pour se tirer d'affaire, le comédien se serait directement adressé à sa fameuse bouteille, l'accusant d'être responsable de son échec. L'histoire ne dit pas si le comédien a fini par faire rire le public, mais toujours est-il que depuis, quand un artiste, ou n'importe qui d'ailleurs, un politicien, se plante de manière aussi monumentale, on parle d'un fiasco. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci Francine. Merci Catherine.
Merci Hélène.
Merci beaucoup. Merci Mathieu. Et voilà, nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine. Et au plaisir. Au revoir.